Alors Pierre Bénichoux, Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Isabelle Motreau, Gérard Miller et Serge Liadeau. Bonjour Serge.
Bonjour, je suis là.
Alors ça va bien ?
Impeccable, tout va bien.
Bon, aujourd'hui, surprise, puisque pour cette chronique dans laquelle nous essayons d'évaluer quelques ressemblances, il se trouve que nous avons choisi de le faire en présence de Marie Laforêt. Elle est en cause, Marie. Elle, ou en tout cas, les auteurs-compositeurs qui ont travaillé pour elle.
C'est une chanson. C'est voilà ce que j'ai comme élément. Le texte date de 1875. C'est une chanson traditionnelle catalane qui s'appelle, je vous traduis en français, c'est le Rossignol de Mars. Le Rossignol de Mars. Et cette chanson a sans doute été réenregistrée récemment, disons il y a une dizaine d'années. On retrouve dans cette chanson trois airs qui ressemblent beaucoup à des airs de Marie Laforêt. Et franchement, je pense qu'il doit y avoir une probabilité sur des milliards pour que ce soit un hasard.
Alors on vérifie tout de suite.
Vérifions. Parce
avec
que
quelle chanson de Marie on peut savoir?
Alors c'est Calor la vida, Mon amour, mon ami, et puis Yvan Boris et moi.
Vérifions.
C'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi.
Roussignol, roussignol, petit roussignol est meu. Roussignol, roussignol, petit roussignol est meu.
Ça compliquait bien un peu la vie. Trois garçons pour quatre filles. On était tous amoureux, toi de moi et moi de lui.
Alors là, bravo Serge Liadeau.
Moi je quitte
ça, ce... oui.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je vais vous dire, on était emmerdés du mal qu'on avait fait à Monsieur Joncourt. Oui. Je suis très embêté.
Pierre,
hein. Je suis d'autant plus embêté que, étant donné mes fonctions à la préfecture de police, je suis obligé de demander à Marie Laforêt de me suivre.
Serge Liadeau, une explication?
Pour moi, là, c'est un plagiat et je peux vous dire, j'en ai la preuve.
Ah, alors, on vérifie?
Oui, c'est un document sonore.
Écoutons.
Tu fais partie des invités, on voudrait te voir chanter et te trouver un mécène pour que tu montes sur scène. Finalement, ce serait génial que tu montes une chorale avec tes potes de travail. Ruquier, Miller, Bénichoux et toi, Vandel, Vermus, Pierre Sled et toi, Le Moine, Garel, à l'évêque et te voir, Hernandez, Benguigui et...
C'était un poisson d'avril.
Mais oui.
Et voici Serge Liadeau qui nous rejoint autour de la table. C'était un poisson d'avril.
Oui, parce que
comment il a inventé cette chanson catalane?
Mais non. C'était fait sur.
Alors, on va donner un micro à Serge.
Oui. Ça n'est un, ça.
Oui, voilà.
Le catalan, c'est ma langue maternelle. Je suis natif de Perpignan.
Eh bien.
Et un de mes tout premiers enregistrements, c'était en catalan. Donc, cette chanson, ce titre existe, le Roussignol.
Enfin, oui,
pas ce titre-là exactement, Roussignol que va à France, Roussignol qui va en France. Et donc, je me suis servi un peu de ce texte, je l'ai un peu remanié, mais c'est du catalan.
Bon, ben voilà, bravo Serge Liadeau,
c'est drôle. génial.
La tête.
Non, non, parce que j'attendais la fin parce que cette chanson, elle tenait pas debout. Elle avait trois. Et en 1875, c'était pas possible qu'il y ait un couplet, un refrain et
un truc. Oui, c'est vrai.
Et un truc
trois
en
chansons,
plus.
Trois plagiats dans la mer.
Trois plagiats dans la mer, ça faisait quand même beaucoup.
Pierre, vous y avez cru.
Moi, je vois bien. Je voyais bien un jeune compositeur qui écoute ça et qui dit tiens, je vais faire trois musiques, un truc avec ça. Je la porte à Marie Laforêt qui n'y voit que du feu, la pauvre. C'est normal, puisque personne connaît ça. Elle fait mettre des paroles par quelqu'un d'autre, et ça se fait comme ça. Et le type, maintenant, coule des jours heureux à Miami. Je ne sais pas. Mais j'étais prêt à lancer mes hommes dessus. Enfin, je veux dire. Ah non, moi, j'ai marché à mort.
Oui, moi aussi.
Avant de redonner la parole à Serge Liadeau, revenons un instant sur le 1er avril, le poisson qu'on a fait à Stevie Boulet. Vous savez qu'on l'a vu dans la presse il y a 15 jours, que Stevie avait dans sa cuisine au Mans, la Joconde. Et je dois avouer que c'est moi qui ai eu cette idée terrible. Je dis, si on envoyait un quart de japonais pour aller voir la Joconde chez Steve. Alors, c'est passé dans l'émission d'hier, c'est à pisser de rire, parce qu'à aucun moment, il ne se doute que c'est notre équipe, parce qu'on a envoyé quelqu'un qui ne connaissait pas, entouré d'une dizaine de japonais, qui sonne à sa porte, c'est la maman de Stevie qui ouvre, et le type explique, qu'il fait partie de l'ambassade du Japon, que les japonais ont vu que la Joconde avait été expédiée au Mans chez lui, et tout, et Stevie, qui est en robe de chambre,
il va se changer.
Il est très gentil, il les fait rentrer dans sa cuisine, les japonais photographie la Joconde. On le voit partir se changer parce qu'il se dit vont me prendre en photo, donc il revient avec un costume.
Ah, c'est génial, hein.
Et alors on est quand même pris de honte, il dit aux japonais mais vous savez que c'est pas la vraie, il veut quand même leur dire que c'est pas la vraie. Et on lui a rien dit, c'est-à-dire que l'équipe est repartie sans lui dire que c'était un canular. Et moi dans l'émission hier, en tout début d'émission, exprès, je viens sur le Mans, tout doucement, puis je dis, ah là, qu'est-ce qu'on irait bien au Mans, venir vous voir dans votre maison. Et évidemment, d'un seul coup, plein d'orgueil, il dit, oh, vous savez pas ce qui m'est arrivé, il y a des Japonais qui ont des schémas. Mais non, c'est pas possible. J'ai des photos, qui disait, j'ai des photos. On a pris des photos. Je dis, ben nous, on a le film. Voilà, ça marche toujours, les poissons d'avril. Faut continuer à en faire. C'est une tradition qu'il ne faut pas perdre. Ce soir, vendredi, ne loupez pas ça parce que c'est vraiment à pisser de rire. Serge, une petite chanson puisque vous êtes là en live dans studio.
Allez,
première fois.
Pas facile de faire l'actualité quand on est en enregistrement, hein, donc c'est de l'actualité plus large. Les constructeurs automobiles depuis longtemps cherchent un style qui leur permettrait d'écouler leur production à l'étranger. La solution, c'est le sur-mesure. À chaque pays, sa voiture. Pour qu'un modèle soit exporté, faut qu'il soit personnalisé. En France, on connaît nos limites. Nous, on en a des toutes petites. Des plus petites, il n'y en a pas. À part peut-être celle des Chinois. L'Américain en a une large qui rentre même pas dans le garage. Au Portugal, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'il y ait de la fourrure partout. Chez le Russe qui aime faire des conquêtes, elle est montée sur chenillette. Un bel engin qui, sans problème, pénètre le marché tchétchène. En France, on connaît nos limites. Nous, on en a des toutes petites. On les astique avec amour dès qu'elles ont fait un aller-retour. Chez les Grecs, il n'y a pas de portière, car ils passent tous par l'arrière. Pour la longueur, aucune n'égale celle qu'on peut voir au Sénégal. Chez les Brésiliens, quelle tristesse. Il y en a même où il manque des pièces. Au Vatican, elles durent longtemps. Faut dire qu'elles servent pas souvent. En France, on connaît nos limites. Nous, on en a des toutes petites. Le temps de préchauffage est très court, car elle démarre au quart de tour. Les Anglais qui ont de la jugeote ne retirent jamais leur capote. L'Israélien qui est circonspect exhibe un beau modèle coupé. En Italie, on chante en bonne pour vous qu'il y ait un bon klaxon. Au Proche-Orient, il y a des mecs qui s'envoient même en l'air avec. Nous, on en a des toutes petites, des petites nerveuses qui vont très vite. Les femmes veulent bien les prendre en main, à condition qu'il y ait de bons freins.
Serge Eliado.
Merci à vous.
Le salon de l'auto.
Je trouve ça formidable. Évidemment, vous qui n'aimez pas la France, Miller, vous n'aimez pas ce style. Mais moi, je trouve ça formidable.
Vous avez marqué toujours à la limite du bon goût, mais sans jamais.
Ah non, non,
non. Tu vois, maintenant, on j'ai envie de monter sur scène.
Certains esprits chagrins peuvent y voir des allusions, mais.
Pas un mot plus haut que l'autre. On peut la sortir pour les soirées du Rotary Club.
Vous êtes au Festival de Toulouse ?
Oui, le Printemps du Rire à Toulouse pendant quelques jours. Oui.
Printemps du Rire à Toulouse.
Je ne sais même pas si ça vaut la peine de faire la publicité. C'est plein.
C'est pas vrai.
Ouais.
Eh bien, merci, on applaudit.
C'est peut-être grâce à vous.
Serge Eliado, et on se retrouve après la pub. On va se gêner, dernière minute, avec Isabelle Motreau.
Mais oui.
J'avais oublié son nom. Marie Laforêt.
Oui.
Sophie Garrel, Philippe Alfonsi, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Serge Eliado, qui pour la première fois est au studio. Monsieur Musique Éternel, mais Madame Cinéma Éternel est là aussi. Et bonjour, oui. Monique Pantel.
Oui.
Alors, Monique, les films sortis mercredi, est-ce qu'ils sont bien
sortis? Avant, est-ce que je peux vous dire quelque chose?
Allez-y, Monique.
Je suis à la fois contente et confuse.
Pourquoi?
Parce que pour m'honorer, le Festival de Cannes n'aura pas lieu à Cannes cette année, mais à Mont-de-Marsan, ma ville natale.
Ah oui?
Alors, je suis ravie, mais quand même un peu gênée, non?
Il est un peu gros, ce poisson-là, vous voyez,
oui,
Monique?
Oui, oui. Oui.
Et ben, c'est vrai.
Elle est douée, cette Monique, pour les farces. Quelle déconneuse.
Tu sais que moi, au début, mais j'ai failli marcher.
Moi, j'ai fait changer mes billets.
Bon, le Manichou est revenu le vendredi.
Eh oui. Alors, parmi les films sortis mercredi, parlons d'abord peut-être de L'Antidote avec Christian Clavier et Jacques Villeray.
L'Antidote, c'est très mignon. C'est pour Jacques Villeray, évidemment. Un grand homme politique qui est très honnêtement joué par Christian Clavier. Il bégait quand il parle en public, c'est embêtant. Il s'aperçoit que quand il est devenu syndicaliste, notre cher Villeray, il ne bégait plus. Donc il en fait son nounours. C'est très mignon, c'est rigolo et sympa. Voilà.
Isabelle Motreau est d'accord.
Il y a un côté farce politique assez marrante, assez bien vu. Bon, c'est pas aussi bien que du Weber, moi, je trouve.
Non, ben, bien sûr que non.
Mais les deux, là, Clavier et Villeray s'amusent beaucoup. Oui. Et c'est un plaisir aussi.
Une autre comédie, Crustacés et Coquillages, un film d'Olivier Ducastel, Jacques Martineau, avec Valéria Bruni-Tedeschi, Gilbert Melki et Jean-Marc Barr, entre autres.
Eh bien, c'est une comédie musicale homo. Et c'est filmé dans des paysages superbes. C'est convenu, bien sûr, mais c'est pas con du tout. Valéria, elle s'appelle Bruni-Tedeschi, qui a une pêche d'enfer, elle chante et danse. Elle est mariée avec Gilbert Melki, qui a la banane sur la tête. Ils ont un fils qui a les cheveux longs, et du coup, la mère croit qu'il est homo, mais c'est pas le mot, c'est pas le bon. Mais c'est un autre qui sera homo.
C'est drôle pas, ou pas drôle?
C'est rigolo.
Si, si, moi, tu disais que c'était convenu. Moi, je trouve que, justement, pas du tout. Il y a plein de choses où on est complètement surpris en permanence par le film lui-même, qui a un rythme tout à fait inégal, et les chansons aussi sont très marrantes. Non, c'est pas convenu du tout.
Passons à un tout autre genre, c'est d'ailleurs un film européen, Hôtel Rwanda.
Alors c'est un film honnête, un film grave, un film qu'il faut voir. Parce qu'on n'a pas oublié quand même le massacre en 1994 au Rwanda de 1 million de personnes. Les Tutsis se sont fait massacrer par les Hutus. Et donc là, moi, sur le moment, je regardais à la télé, je comprenais pas bien. À travers ce film, on comprend l'horreur. En fait, c'est à cause de la colonisation des Belges. On comprend tout. Et surtout, on comprend qu'un homme qui a réellement existé, qui s'appelait Paul Rouresabagina, c'est un juste, comme on dit. Il avait un hôtel. Il est très, très bien joué. Par je sais plus qui, mais il est extrêmement bien joué. Il a un hôtel de luxe qui tient pour les Belges, et il recueille là le maximum, au péril de sa propre vie, le maximum de réfugiés. Et c'est un film très honnête, un film qu'il faut voir.
D'où le titre Hôtel Rwanda.
Oui, c'est un film absolument nécessaire.
Oui,
parce que effectivement, ce qui est, c'est à la fois bouleversant, c'est complètement, il y a un suspense terrible dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'effectivement, il va se trouver dans la position de pouvoir sauver des tas de gens, mais surtout, c'est impressionnant de clarté, parce que c'est quand même un conflit délicat à expliquer, et là, on comprend tout. C'est vraiment un film absolument nécessaire. Oui, je suis absolument d'accord avec toi.
C'est une précision, c'est un épouvantable massacre, le mot exact de ce massacre, c'est génocide.
C'est génocide, oui.
Il y a eu trois grands génocides au XXe siècle, le génocide des Arméniens commis par les Turcs, le génocide évidemment que les nazis ont commis, et le génocide au Rwanda.
Va vie et devient, un film avec Roche Dizem.
C'est un film très très émouvant. Élevé en Éthiopie, un petit garçon catholique est poussé par sa mère à fuir le pays avec les Falacha, qui sont des juifs éthiopiens. Et donc, il se fait passer pour juif, il est catholique, et il est recueilli par une famille de gens qu'il aime, et il est obligé de parler, d'apprendre la langue, d'apprendre la religion, et c'est très beau.
T'as fait franco-israélien, une femme.
C'est très drôle aussi. Hein.
Oui.
Vous l'avez vu, Marie?
Oui, je l'ai vu.
Va-vie et devient.
Voilà, moi je l'ai vu aussi, et je
j'ai adoré ce film.
Absolument. C'est un film, mais formidable.
Formidable.
Mysterious Skin.
Oh ben, c'est sûrement le plus beau film de la semaine.
Ah oui?
Ah oui, mais c'est dur, hein. C'est dur à supporter. C'est deux gamins, deux traumatismes et deux façons de les exorciser. Brian a 8 ans, il sait pas ce qui lui est arrivé, il fait semblant de croire qu'il a été enlevé par des martiens. Brian, au même moment, à 8 ans aussi, lui devient plus dur que celui qu'il a violé, il fait payer dans tous les sens du terme à ses clients après ce qu'on lui a fait subir. Et le petit Brian, qui a grandi, qui a 10 ans de plus, il s'aperçoit bien qu'il a pas été enlevé par des martiens. Il essaie de retrouver la vérité, et j'ai eu envie très souvent de partir parce que c'est atroce à voir, mais je suis pas partie pour savoir ce qui s'est passé vraiment, et j'ai pleuré à la fin. C'est un très très beau film, très poignant, très dur. Très, très dur.
Sur la pédophilie, hein, on l'aura compris.
La pédophilie.
Mysterious Skin. Autre sujet, le cercle The Ring 2.
Alors moi je suis complètement entordue, je tourne pas rond, parce que j'ai marché moi ce film d'horreur.
Avec Naomi Watts.
Oui, c'est peut-être elle est tellement bien. Alors c'est la même cassette infernale que dans le premier qui frappe encore, et elle est la mère du petit garçon, et elle l'amène dans une pour essayer de neutraliser la cassette, et puis elle s'aperçoit dans une ville au bord de la mer, elle s'aperçoit que non, qu'il a le mal en lui, et voilà, il va falloir qu'elle choisisse de faire une chose très horrible, et voilà. Moi j'ai marché, c'est idiot, mais j'ai marché.
Ah, moi j'ai pas marché du tout, parce que j'ai préféré les précédents d'Hideo Nagata, qui l'a fait quelque chose de très américanisé, et du coup on est à l'extérieur, on marche pas du tout. Enfin, je sais pas, moi pour moi c'est quelque chose de très superficiel, ce film.
Un dernier, une femme coréenne.
Mon coup de cœur.
Ah.
C'est formidable, c'est étonnant, c'est passionnant, c'est sexuel. Il y a donc le sexe, l'amour, la politique, la mort, le rire, la vie, les charniers de l'horreur aussi. Le tout dans une belle pagaille. Elle est mariée, elle s'appelle Oh Chung. Elle est mariée à un avocat qui est débordé de travail, qui s'occupe plus d'elle. Elle élève toute seule leur fils adoptif qu'elle aime énormément. Son beau-père est en train de mourir, mais gentiment, parce qu'il apprend des remèdes qui le font mourir heureux. Et le corps de la jeune femme est en manque. Le petit voisin d'enfance qui a 17 ans la regarde par la fenêtre. Elle le séduit dans un cinéma. Elle lui fait des trucs dans un cinéma. Ils sont très heureux. Et c'est la première fois qu'elle éprouve l'amour, la splendeur du plaisir. Moi, j'ai adoré ce film.
Un film coréen qui s'appelle donc Une femme coréenne. Dites, pour résumer, beaucoup de bons films, finalement. Alors,
oui, très charmant. Des films très sympathiques.
Depuis mercredi, alors, soit des films graves comme Hôtel Rwanda, Va-vie et devient, Mysterious Skin, Une femme coréenne dont vous avez parlé à l'instant, et puis aussi deux comédies légères françaises, mais plutôt réussies, on va dire, L'Antidote et aussi Crustacés et Coquillages, sans oublier, pour ceux qui aiment les films américains de ce genre, Le Cercle, The Ring 2. Merci,
bon,
Monique Pantel.
Maintenant, je m'en vais, hein, parce qu'il me réclame.
Où ça?
Eh ben, il me réclame à Cannes pour essayer de voir comment on peut transformer le
Parce que vous continuez le canular, là.
Oui.
Je crois que le plus beau canular que j'ai pu réaliser, moi, c'est vous, sur cette antenne depuis 4 ans.
Ça, c'est vrai.
Au revoir, Monique Pantel, on vous embrasse.
Au revoir.
Très vite, quelques conseils avant de partir en week-end, Gérard Miller.
Écoutez, un livre qui a été édité par les éditions du Rocher au profit d'une association qui est France Alzheimer. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Eh ben, c'est un livre sur où 51 personnalités ont écrit contre l'oubli. Donc, des petits textes. Eh ben, je vais vous dire souvent dans les associations humanitaires, on se dit, est-ce qu'en plus la littérature est là? Eh ben, les textes sont très réussis. Le texte, notamment de Philippe Bouvard, dont j'ai souvent dit du mal ici, dont je me suis souvent moqué, est un superbe texte. Et je vois que sur des sujets aussi graves que l'Alzheimer, eh bien, non seulement c'est le cœur qui agit, mais aussi l'esprit. C'est très, très joli comme bouquin. Vous pouvez l'acheter au profit de cette association France Alzheimer et également, évidemment, soutenir cette association par ailleurs.
C'est sur quel sujet?
Mais je comprends que Bouvard se soit intéressé en même temps. Ça. Le Printemps du Rire à Toulouse, on l'a dit, c'est un festival où des tas d'humoristes se rendent pendant plusieurs jours du 29 mars au 9 avril. Serge Liadeau, notre collègue, il sera à Toulouse pour le Printemps du Rire.
Oui, et tant d'autres, hein. J'ai vu qu'il y avait Florence Foresti.
Le Salon du Fil et de la Broderie, l'Aiguille en Fête, ça c'est à Paris pour la première fois, au Parc Floral de Paris, Salon International du Fil et de la Broderie, pourquoi pas pour ceux que ça intéresse. Et puis un autre sujet grave, le SIDAction, opération collective de dons, c'est une fois par an, faut pas oublier, 1er, 2 et 3 avril, un seul numéro à retenir, le 110-110 pour récolter des dons en faveur du SIDA qui reste, il ne faut pas oublier de le dire, un fléau à travers le monde.
N'oubliez pas aussi, dans un genre tout à fait différent, comme disait du philo, le formidable festival
du mocassin.
Non, pas du tout, du livre et du vin. Il se tient à Saumur au mois d'avril aussi.
Ah oui, mais c'est pas ce week-end.
Ah non.
Bon, bah... mais vous avez commencé avant les autres.
Il y a aussi le festival de Cannes, en mec, c'est pas mal.
Pour le site d'action, c'est 110. Vous tapez sur votre téléphone 110 et vous faites vos promesses de dons. Merci, bon week-end sur Europe 1. Europe 1, il est 18h, le journal Vincent Parisot, bonsoir.
Bonsoir, le pape se meurt. Les catholiques du monde entier s'attendent à l'annonce imminente de la disparition de Jean-Paul II. Selon le Vatican, son état de santé est d'une évidente gravité depuis hier soir. Le Saint-Père a fait une septicémie qui a déclenché un arrêt cardiaque. Il a reçu l'extrême onction. Les fidèles n'ont plus d'espoir et partout dans le monde, des messes sont célébrées. Nous consacrerons bien entendu l'essentiel de ce journal à l'agonie de Jean-Paul II. Nous irons à Rome dans un instant, puis à Varsovie où tout le pays prie pour Karol Wojtyla. Nous irons également à Notre-Dame où Monseigneur 23, l'archevêque de Paris, s'apprête à célébrer une messe et puis à Lourdes également où le pape s'était rendu le 15 août dernier. Après 18h30, prolongement dans Arrêt sur Info avec Laurent Bazin, Arrêt sur Info qui sera également consacré aux dernières heures de Jean-Paul II. Dans l'actualité de ce vendredi soir également, le cas Zidane, le quotidien L'Équipe qui a interviewé l'ancien numéro 10 des Bleus assure qu'il aimerait revenir en équipe de France, évoquant même un retour rêvé pour le match contre l'Irlande à Dublin. Il faut presque se pincer pour y croire et d'ailleurs nombreux sont ceux qui n'y croient pas, à commencer par son propre agent. Nous tenterons donc d'y voir un petit peu plus clair. Nous évoquerons aussi l'histoire d'un interne en médecine de Nancy qui a voulu se débarrasser d'un rival amoureux en recrutant un tueur à gages sur Internet. Comme chaque vendredi, nous ferons un point sur vos conditions de circulation et puis Thierry Fréret nous annoncera un samedi agréable et ensoleillé avant un dimanche qui sera un peu plus nuageux et pluvieux. La bourse à la hausse à Paris, plus 0,3 à 4080 points. Les catholiques du monde entier se préparent donc à l'annonce de la mort de Jean-Paul II. Depuis la dégradation rapide et spectaculaire de l'état de santé du pape hier soir, l'espoir a cédé la place au recueillement et aux prières pour accompagner le Saint-Père dans la mort. Jean-Paul II est lucide et serein, a déclaré à la mi-journée le porte-parole du Vatican. Mais au-delà des mots, eh bien tous les signes montrent que Jean-Paul II est à l'agonie.